Le nom de l'Éternel soit béni. J'aimerais commencer en vous lisant quelques paroles de ce merveilleux psaume 119. Alors je vous lirai à partir du verset 88. « Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. » Je crois que ça va avec tout ce que nous avons partagé jusque-là. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Quelle grâce! On est un de ces chaînons, de ces générations, depuis David, grâce au fils de David. Et nous lisons cette parole en ce soir, ici à Gantis. C'est merveilleux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Et elle est là ce soir. Et Dieu soit loué pour sa grâce qui nous donne d'être fidèles ce soir à l'écoute de sa parole. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi. Amen. Que cette parole de Dieu est merveilleuse, qu'elle est belle. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler de quelques fondements pour notre vie cette fois. Et nous allons, après quelques points, aborder principalement deux points. Le besoin d'écouter la voix de Dieu afin de lui obéir et de connaître et d'être fondé et formé par la parole de Dieu. Si nous avons le temps, nous parlerons un petit peu aussi de la mise en pratique, l'importance de la mise en pratique. D'abord, je vous dirais que j'espère que ce séminaire nous aide et va encore nous aider à nous rendre compte profondément et à comprendre que l'obéissance est quelque chose de précieux, comme cette parole, que nous puissions avoir ce cœur de David, bien-aimé, que nous puissions avoir le Messie dans le cœur, l'Esprit du Messie, pour avoir ce même cœur de David, et que nous puissions ne pas ignorer que l'obéissance est fondamentale, parce que c'est de là, je dirais, que tout se joue, que tout se fonde. C'est comme, nous savons que depuis notre cerveau, tout est coordonné, tout s'harmonise, tout se dirige. Je crois que l'obéissance est quelque chose de fondamental. Si nous comprenons l'obéissance, alors notre vie chrétienne va se fonder sur la droiture, sur la justice. Elle va avoir ses fondations dans le ciel. On va pouvoir recevoir du ciel, être formé par le ciel, tout en étant bien de la terre, mais laissant Christ être formé et façonné en nous. L'obéissance, elle est vraiment ce moteur, elle est cette ligne directrice, elle est, nous allons le voir, cette voix qu'il nous faut absolument écouter pour appartenir au roi des rois, au règne de Dieu. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Proverbe 14, 2, Proverbe 11, 19, « Ainsi la justice conduit à la vie. » L'obéissance, pourrait-on dire, conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Que Dieu nous bénisse encore de sa vie en ce soir. Alors, je n'aborderai pas ce qui devait être le premier point, parce que je pense que nous en avons assez parlé. Pour vivre la vraie obéissance, il faut vivre d'abord une authentique conversion. On ne peut pas obéir nous-mêmes. C'est Dieu qui doit nous donner sa nature afin que de sa nature, nous puissions obéir. Mais ce que j'aimerais dire, et qui est quelque chose, je crois, de fondamental, de très important, c'est que Dieu nous veut avoir une obéissance filiale, une obéissance de fils. Nous avons dit que l'obéissance implique le renoncement au désir de la volonté propre pour devenir de la soumission sans restriction à une volonté supérieure qui est celle de Dieu. Mais ça n'est qu'en Christ, par l'Esprit, que l'on peut obéir ainsi, et ça, bien-aimé, on ne peut pas le trouver en nous. Et il faut être clair que Dieu ne nous demande pas d'obéir parce qu'il faut obéir. Dieu ne nous demande pas d'obéir par légalisme, par peur. Il veut une obéissance filiale, parce que l'obéissance filiale, elle bâtit. L'obéissance filiale, elle fait croître. L'obéissance filiale, elle fait grandir. Mais l'obéissance de l'esclave, l'obéissance légaliste, eh bien, je crois qu'elle nous fait régresser. La religion tue, bien-aimé. Mais l'esprit vivifie. Et c'est vraiment dans la confiance en Dieu que nous pouvons obéir. Et je crois que même si nous n'avons pas besoin de nous y arrêter longtemps, un point fondamental. On a besoin de se confier en Dieu et d'être vraiment se racheter en qui Dieu a mis le Fils pour pouvoir lui obéir comme il faut. Jérémie 31, 33 dit « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Il faut être un fils pour obéir. Il faut être un fils pour obéir. Ce n'est pas en obéissant qu'on devient un fils. Il faut être un fils pour obéir. Alors, nous deviendrons un homme, pourrait-on dire. Mais la base, elle doit être dans cette réconciliation profonde avec Dieu, qui nous donne son cœur. On va le voir, c'est comme, que comme ça que l'on peut l'écouter. Et c'est, je crois, quelque chose de profondément important. Ézéchiel 36, 27, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Le moi, vous voyez, bien-aimé, il ne peut pas être soumis. Le moi, il est trompeur. Notre moi non racheté, ça ne sert à rien de lui parler d'obéissance. Il va pouvoir jouer à l'obéissant, comme il peut jouer à l'humble. Vous savez, je pense que notre moi est doté de grandes capacités spirituelles, de grandes capacités qui peuvent faire paraître quelque chose qui a l'air si proche de la vérité. On peut jouer avec beaucoup de choses. Vous savez, nous sommes corps, âme et esprit. Et nous avons de grandes facultés que nous pouvons développer, qui paraissent profondément chrétiennes. Mais soyons clairs, Jérémie 17, 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Notre cœur non racheté, qui n'a pas reçu la vie du Fils bien-aimé, au fond de lui, il n'aime pas Dieu. Au fond de lui, il est rebelle. Encore une fois, il peut le faire superficiellement, mais au fond, il est déchu. La soumission, il n'aime pas. L'obéissance, il n'aime pas. Et c'est pourquoi Jésus dit « ouvrier d'iniquité ». Sans forcément croire que c'est parce qu'on fait le péché consciemment, volontairement, c'est parce qu'on le sert. Et donc, on lui obéirait, hein, je parle au conditionnel, par nous-mêmes. La volonté du Père, elle ne peut que se faire par lui-même en nous. Et ça, c'est fondamental. Jésus lui-même disait qu'il ne faisait rien hors de ce qu'il voyait faire au Père. Tout ce qu'il faisait, c'est ce qu'il voyait faire au Père. Alors, puisse cela être profondément inscrit en nous. Le test qui va nous montrer est-ce que nous sommes des enfants obéissants ou pas, c'est la croix. C'est la croix qui, comme on en a aussi assez parlé, crucifie cette nature et permet que nous en recevions une nouvelle. La croix, bien-aimée, c'est le nouvel arbre. La croix, c'est le nouvel arbre. Par cet arbre qu'il ne nous fallait pas toucher par peur de mourir, certainement, est remplacé par l'arbre de la croix. Alors lui, cet arbre-là, bien-aimé, il faut y manger. Cet arbre-là, il faut le toucher. Cet arbre-là, il faut le garder profondément dans notre cœur. Cet arbre-là, c'est celui qui nous ouvre le chemin vers l'arbre de la vie. Le nouvel arbre de la vie pour nous, c'est la croix. La croix nous ouvre la porte pour retrouver la plénitude de la vie. Alors, bien-aimés, si nous pouvons vivre la croix, eh bien, la soumission, l'obéissance ne nous posera plus aucun problème. Non seulement elle ne nous posera plus aucun problème, mais elle sera douce comme du miel pour nous. Nous désirerons obéir. De la même manière que l'homme, sans connaître le mal, comme nous avons pu en parler dans la première session, a mangé de cet arbre et a fait l'expérience du mal, il a fait par lui-même l'expérience du mal. Si nous allons à l'arbre de la croix, nous ferons l'expérience du bien. Nous ferons l'expérience de la vie. Nous ferons l'expérience du règne. En mangeant de cet arbre de la connaissance, l'homme a été souillé, le péché est rentré en lui. En mangeant de cet arbre de la vie, en s'approchant de la croix, la sainteté, l'amour de Dieu, la vision de son règne, comme nous avons pu en parler, rentrera aussi dans notre cœur. Nous goûterons ô combien le Seigneur est bon. L'apôtre Jean dira dans sa première lettre, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » C'est pas beau ça? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, ces lois éternelles qui font que tout subsiste et que nous subsisterons pour toujours, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça c'est le test que nous sommes vraiment dans notre nouvelle identité. Alors, vous voyez, ce qui peut être un test aussi, c'est de pouvoir dire que l'on aime ce que l'on n'aimait pas. Et on hait ce que l'on aimait. Je crois qu'il faut oser aller jusque-là. Quand on a réellement une nouvelle nature, les choses qu'on aimait dans notre ancienne nature, on ne les aime plus. Et même on les hait. Parce qu'on voit qu'elles nous détournent du règne de Dieu. On a une sainte haine, bien-aimés, contre ces choses. Si nous sommes encore attachés à ces choses de cette Babylone, comme nous avons pu en parler tout à l'heure, eh bien, allons manger la croix. Allons manger à cet arbre. Laissons-la faire son œuvre en nous. Et nous verrons, recevons alors le fruit de la vie, de cette nouvelle nature, que ces choses que nous aimions, elles nous dégoûteront. On aura la sainteté pour ceinture, pour bouclier, pour épée. On sera décidé, comme David, et je vous invite peut-être sur votre couche ce soir, demain matin, à lire ce psaume 119, nous aurons ce cœur de David. Et pour rien au monde, nous voudrons laisser nos ennemis qui n'aiment pas les lois de Dieu venir nous souiller. Cet arbre de la connaissance, parce qu'on saura le mal qu'il nous apporte, on n'aura qu'une envie, c'est de prendre une bonne tronçonneuse et de le terrasser. On n'en voudra plus. On n'en voudra plus. Oh, puisse le Seigneur faire cela dans nos cœurs, mettre la haine du péché en nous et l'amour des choses de Dieu. Ainsi, bien-aimés, cette compréhension, cet amour des choses de Dieu, cette compréhension d'en haut, elle nous est donnée à mesure du dépouillement qui est opéré par cet arbre de la croix. Il y a une sanctification initiale au départ. quand nous convertissons selon les fondements que nous avons pu partager à Dieu, nous sommes mis à part. La sanctification, ça veut dire être mis à part. Et alors, mis à part, ben, il faut grandir. Il faut marcher dans l'obéissance. Et alors, plus nous sommes dépouillés de ce vieil homme, plus nous recevons la vie du ciel, plus nous recevons la compréhension de Dieu. La sanctification devient croissante et nous croissons dans la grâce. Nous croissons dans l'écoute de la voix de Dieu et dans l'obéissance à Dieu. Jusqu'au jour où nous pourrons vivre cette merveilleuse et bénie sanctification finale. Où là, nous serons glorifiés. Nous ressusciterons incorruptibles. Et si nous sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons changés, glorifiés aussi. Alors, comme Christ, bien-aimé, a dépouillé les puissances et les autorités d'ici-bas par son obéissance, puissions-nous permettre que ces choses deviennent effectives en nous aussi, pour alors, elles deviennent effectives par l'obéissance, pour alors vivre de l'obéissance, afin qu'elles puissent devenir effectives dans les autres. Alors, ces quelques points étant abordés, maintenant, nous allons aborder ce point annoncé, le besoin d'écouter la voix de Dieu. C'est si simple. Si on n'entend pas la voix de Dieu, comment pouvons-nous lui obéir? Si nous n'entendons pas la voix de Dieu, comment pouvons-nous lui obéir? On ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on n'entend pas bien. Et ce n'était pas prévu, mais je vais vous donner une jolie anecdote. Notre fille, Anna, avec mon épouse, on a eu quelques combats. Dieu merci, ça n'a pas duré longtemps. Anna vient ici. Anna, elle ne vient pas. Mais Anna, qu'est-ce qui se passe? Notre fille, elle a appris l'obéissance. Anna, qu'est-ce qui se passe? Et plusieurs fois, ça s'est passé. Où on était à la salle de bain. Anna, viens à la salle de bain. Anna, elle ne vient pas à la salle de bain. Et moi, tout à coup, j'ai dit à ma femme, parce que Marie-Madeleine, elle disait, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, elle doit avoir un problème, elle ne nous entend pas. Elle doit avoir un problème d'ouïe. Et elle est allée chez le médecin pour faire un contrôle. Et effectivement, elle avait des bouchons dans les oreilles. Et il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui sont tombés. Et maintenant, quand on dit Anna vient, Anna, elle arrive. Cette petite chérie. Vous voyez, si nous avons les oreilles bouchées, on a beau vouloir obéir, on a beau avoir appris l'obéissance, on ne peut pas obéir. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. Et ça, je prie que ce soit un fondement important qu'on reçoive ce soir. On a besoin, dès le départ de notre conversion, et si ça n'a pas été fait, il n'y a pas de problème. Dieu nous dit, reviens à moi. Et il reviendra vite à nous. On a besoin d'apprendre à écouter Dieu, à entendre la voix de Dieu. Pour cela, bien sûr, encore une fois, on a besoin du Saint-Esprit qui nous aidera à discerner clairement la voix de Jésus. Et on y reviendra. Mais plus on va obéir à cette voix, plus on va l'entendre. Je répète, plus on va obéir à cette voix, plus on va l'entendre. Alors, je vous demanderai, et je vous inviterai même, je me permets de le faire, à écouter une prédication qui s'appelle, si je ne me trompe pas, « Vivons-nous à l'écoute de la voix de Dieu ?» Où nous avons pu faire une prédication qui parle de cela, ça fera que je m'y attarderai peut-être un peu moins ce soir. Quelle voix entends-tu, mon frère? Quelle voix entends-tu, ma sœur? Est-ce que la différence entre la voix du bon berger et la tienne est claire? Entre la voix de Jésus et la voix du diable. De nouveau, la chair et le diable, ça va ensemble. Combien de fois, dans des entretiens pastoraux, j'ai pu dire aux uns et aux autres, ou parfois, quand on me demandait des conseils, quelle est la voix qui te dit ces choses? Quand des gens se laissent accuser, quand des gens sont même pas bien dans leur vie chrétienne, quelle est la voix qu'ils écoutent? Qui peut nous suggérer certaines choses? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est notre voix? Et ça, c'est fondamental d'avoir à nouveau, je dirais, cette confiance Parce que pour commencer à entendre la voix de Dieu, je pense que nous sommes appelés à faire des pas de foi, bien-aimés, à apprendre à écouter. Et vous savez quoi ? Dieu nous instruira. Dieu nous instruira toujours. Il y a un pas de foi à faire. C'est comme lorsque la première fois qu'on peut recevoir une parole de connaissance, ça fait comme ça dans notre cœur. Attends, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu ? Il y a un moment donné, il faut oser marcher sur l'eau, pourrais-je dire. Il faut oser rentrer dans cette communion filiale avec Dieu et de voir que Dieu nous parle. C'est évident que Dieu nous parle. Dieu veut nous parler. Est-ce que nous entendons la voix de Dieu ? On a besoin d'entendre cette voix de Dieu. C'est elle qui va nous guider, c'est elle qui va nous protéger, c'est elle qui va nous aider à discerner. Entendre la voix de Dieu, c'est aller vers la maturité chrétienne. On a absolument besoin d'entendre cette voix de Dieu. On en a parlé tout à l'heure. Dieu ne nous veut pas être des gens qui cherchent sans arrêt à connaître, mais des gens qui connaissent la vérité. Pour devenir des hommes et des femmes, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, n'est-ce pas ? Mais pour cela, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Sinon, on aura toujours besoin d'entendre la voix d'un autre. Je crois, moi, c'est quelque chose que je désire, que tout pasteur, lorsqu'on vient le voir pour lui demander conseil, il devrait tout le temps dire « Est-ce que tu as demandé conseil à Dieu ?» Parce que il y a cette fâcheuse habitude, bien que nous critiquons, et peut-être pas à tort, les prêtres catholiques qui sont, alors que Jésus est notre souverain sacrificateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui se font médiateurs. Et pour approcher de Dieu, on doit approcher d'un prêtre par les sacrements qui nous donneraient d'être en communion avec Dieu. Mais parfois, dans les églises évangéliques, protestantes en général, le pasteur, il n'est pas grandement différent du prêtre. On a un problème, on a quelque chose, on va voir le pasteur. Ça ne veut pas dire que les pasteurs, Dieu ne les a pas établis. C'est un ministère, un don de Christ qui vient d'en haut. Et je ne suis pas en train de dire les pasteurs ne doivent plus exister. Comme tout à l'heure, je ne disais pas les enseignants, les docteurs ne doivent plus exister. N'empêche que cette onction, elle doit nous enseigner. Elle nous enseigne. De la même manière, nous avons besoin des pasteurs. C'est Dieu qui nous les a donnés pour son corps. Mais il y a un bon pasteur. Le meilleur des pasteurs. Le meilleur des bergers. Et son nom, c'est Jésus. Et c'est vers lui qu'il nous faut tout le temps aller. Parce que nous pouvons subtilement nous reposer sur des 10 hommes de Dieu, qui peuvent même l'être, mais qui, s'ils l'étaient réellement, nous ramèneraient à Jésus. Parce que sinon, la communion que le Père veut avoir avec nous, la voix qu'il veut que nous entendions, eh bien, on ne peut pas l'avoir. Parce qu'on va, on se repose sur des hommes. On met sa confiance. On va se dire pas dans la chair, parce qu'il y a une inspiration dans cet homme. Mais cette inspiration, Dieu, il veut que tu l'aies. Ce discernement, Dieu, il veut que tu l'aies. Le Seigneur désire des chrétiens autonomes, pas des individus, comme on disait tout à l'heure, mais des chrétiens autonomes qui sont unis par le même esprit. Vous voyez, ça, Josué, il ne l'avait pas compris, du moins au début. Quand il arrive vers Moïse, il dit, attends, là, il y en a plein qui sont en train de prophétiser dans le camp. Et Moïse, lui, il avait compris, cet homme humble, fidèle, il a dit, mais que tous prophétisent, que tous prophétisent. Et je crois, d'ailleurs, vous le voyez, dans les prophéties de Joël, dans les derniers temps, eh bien, cet esprit de prophétie, il sera répandu sur tous. C'est quoi le cœur de l'esprit de la prophétie ? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle et Dieu veut nous parler. Il veut faire de nous un peuple de prophètes, bien-aimés. Il veut répandre cet esprit, je dirais même pas de révélation, parce que ça c'est autre chose, cet esprit filial, Il nous veut être en communion avec lui. Il veut que nous apprenions à l'écouter, à l'entendre. Les brebis, Jean 10, verset 3, entendent sa voix. Les brebis, si nous sommes les brebis de Dieu, nous entendons sa voix. Les brebis entendent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors là, il y a une double chose. Est-ce qu'on entend la voix de Dieu ? Oui ou non ? Mais deuxièmement, est-ce qu'on entend notre propre voix ? Est-ce qu'on entend la voix de la chair ? C'est une voix étrangère si nous sommes convertis, comme on en a parlé. Est-ce qu'on entend la voix de la chair et est-ce qu'on entend la voix du diable aussi ? Vous voyez ? Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. On a besoin de connaître la voix de Dieu pour le suivre, pour lui obéir et marcher dans ses voies. Et on a besoin de connaître afin de méconnaître la voix de la chair et la voix du diable pour ne pas marcher dans ses voies. Et le discernement de la voix de Dieu, c'est quelque chose de très précieux qui devrait s'apprendre à tout nouveau converti dès le départ. Est-ce que tu entends cette voix de Dieu ? Et puis, on va devoir lui dire, fais confiance, ose répondre à ce que tu perçois. Parce qu'au départ, c'est normal que ce ne soit pas clair. On se dit, est-ce que c'est simplement ma conscience ? Mais la conscience est aussi, comme le dira l'apôtre Paul, une loi que Dieu a mise en nous. D'ailleurs, la conscience de tout homme est une des preuves de l'existence de Dieu et que Dieu a des lois. Nous arrivons dans ce temps où Dieu, comme nous en avons parlé, se retirant, retire sa grâce commune, où cette conscience est de moins en moins aiguisée et devient de plus en plus absente. Mais vous et moi, et encore le plus grand nombre aujourd'hui, c'est la première fois qu'il va pécher, qu'il fait quelque chose de mal. Il y a quelque chose en lui qui l'avertit. Quand il fait le bien, il se sent bien, il n'y a pas de problème. Mais quand il va être violent, quand il va frapper, quand il va être dans l'impureté, il y a un cœur qui bat en lui. Il y a sa conscience qui lui dit que ça ne va pas. C'est quoi ça ? C'est Dieu qui avertit. C'est ces lois éternelles de Dieu qui sont gravées dans notre cœur. Et s'il y a des lois du bien et du mal comme ça gravées dans notre cœur, c'est qu'il y a un législateur, c'est qu'il y en a un qui règne. Et même si nous ne voulons pas l'écouter, n'empêche que notre cœur y bat et on n'arrive pas à faire qu'il puisse ne pas battre. Bien sûr, lorsque l'on continue dans le péché, notre cœur finit par plus battre. Mais dès le départ, nous sommes appelés à découvrir cette sensibilité. Alors, nous avons la sensibilité à notre conscience. Mais quand nous sommes nés de nouveau, nous devons avoir cette sensibilité à la voix de Dieu, à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est là pour nous guider dans la vérité tout entière, n'est-ce pas ? Puissions-nous apprendre à l'écouter et oser faire des pas de foi, oser avancer. Et faites confiance à Dieu qui vous apprendra, qui vous confirmera ou vous infirmera. N'ayez pas peur de vous tromper. Il y a un moment où il faut se lancer. Bien sûr, si vous entendez une voix qui vous dit de sauter du troisième étage, eh bien, puissiez-vous discerner que c'est une voix étrangère, d'accord ? Mais nous sommes appelés à entendre cette voix de Dieu, à écouter la voix de Dieu. Alors, il serait venu plus tard, je vais en parler maintenant. Si je dis ça, je dirais aussi attention. Parce qu'aujourd'hui, on entend énormément et beaucoup trop, et c'est pour moi, comment dirais-je, une véritable offense à Dieu. Et on trouve d'ailleurs sur ces tables de la loi qu'il a gravées par son doigt dans le feu du Sinaï, de prendre le nom de l'Éternel en vain. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Non, non, je crois que si, pardonnez-moi de tout le temps parler de ça, mais je crois que c'est fondamental. S'il n'y a pas une claire conversion et une claire différence en disant le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, eh bien, je pense que parfois on dit beaucoup moi, moi, moi. Alors, je ne suis pas en train de dire, c'est honnêtement quelque chose qui me chagrine, que j'aime pas du tout, qui pour moi est une marque de l'apostasie. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Et les personnes qui se sentent guidées en toutes choses par le Seigneur. Non, c'est justement dans le brisement Et je vais revenir à ce point, je vais faire une parenthèse en parlant de ça. Pour vivre une claire obéissance, je dirais pour être de ceux qui ne disent pas tout le temps « le Seigneur m'a dit », mais qui peuvent dire « le Seigneur m'a dit ». Qui peuvent dire surtout « le Seigneur me conduit ». Il est mon bon berger. Je discerne sa voix. Et je discerne la voix de mon vieil homme et la voix du diable. Je crois que nous devons avoir, bien aimé, une vie de discipline. Vous voyez, le vent souffle où il veut. Et il en est ainsi pour celui qui est né de l'Esprit. Il ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais dans la parole de Dieu, dans cette chère et bénie Torah qui pose les fondements de Dieu, pour par l'Esprit nous enseigner, nous avons cet enseignement fondamental que l'Esprit qui était dans le feu la nuit et dans la nuée le jour, il résidait où ? Dans le tabernacle. Et le tabernacle, bien-aimé, si vous étudiez le tabernacle, même s'il était plutôt rectangulaire que carré, la Jérusalem céleste, vous pouvez lire Apocalypse, elle est tout à fait carrée, mais le tabernacle était carré dans le sens que tout était clair, tout était net, tout était précis, tout était parfait. Et nous verrons dans le ciel que le Seigneur ne s'improvise pas. Il y a des artistes parmi nous, que le Seigneur les bénisse. Mais le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Et nous devons avoir une vie ordonnée. C'est ce qui ne fera pas de nous ces espèces de prophètes qui pensent tout le temps que Dieu leur parle à tout moment. Si nous voulons bien écouter la voix de Dieu, le prophète Ésaïe parle de ce disciple qui est réveillé par la voix de Dieu, n'est-ce pas ? Eh bien, nous sommes appelés à être des disciples. Et qui dit disciple, dit discipline. Nous avons besoin d'avoir une prière personnelle bien en place. Que toutes ces choses que l'on partage, Dieu puisse nous les rappeler chaque matin. Chaque matin, il éveillera notre oreille. Alors nous serons conduits par le Seigneur. Parce que si nous faisons notre vie en nous disant guidés par Dieu, je dis attention. Mais si nous avons une vie de discipline, une vie d'ordre, chaque matin, nous nous lèverons. Chaque matin, nous le chercherons. On va le voir dans sa parole, dans la communion de la prière. Alors les choses vont se faire de plus en plus claires. Et nous serons, j'aurais envie de dire, gardés de tout ce qui pourrait être farfelu, abusif. Vous voyez, j'écrivais, si on veut le parfum qui monte vers Dieu et sa présence qui descend vers nous, il nous faut la menorah et les pains. C'est là l'équilibre. Dans le saint, vous aviez les pains, la menorah et le parfum. Il nous faut rentrer dans ce parvis. Il nous faut passer par l'autel, passer par la cuve, rentrer dans ce saint et manger au pain qui est la parole de Dieu, communier par l'Esprit de Dieu avec le Seigneur qui est cette menorah, cette lumière. Alors le parfum montera. Alors la présence de Dieu descendra à nous. Alors le rideau s'ouvrira et nous pourrons être dans l'Alliance et dans sa présence. Et nous entendrons clairement sa voix. Et elle nous dirigera comme elle a dirigé les enfants d'Israël dans le désert. Et le jour et la nuit, mais sur des bases de discipline. Voilà pour cette parenthèse. Maintenant, j'aimerais vous lire un témoignage qu'un cher frère a pu me transmettre, qui, je pense, même si nous ne sommes pas tous appelés à être des tels hommes de foi, voudra bien nous enseigner. Un homme qui s'appelle Rhys Howell. Quand il partit en Afrique pour la mission, il n'avait pas un sou et avait juste de quoi atteindre la gare où il devait changer de train. Rempli de joie et de la ferme assurance que Dieu pourvoirait à la fin de son voyage, il vit sa femme et un groupe d'amis, entre parenthèses qui ne connaissaient pas ses besoins, lui prendre un billet de train jusqu'à la gare de transition. Arrivé là-bas, il attendit la délivrance de Dieu, mais rien ne se passa. Au bout d'un certain temps, il entendit Dieu lui demander « Qu'aurais-tu fait si tu avais eu l'argent ? » Il répondit, « J'aurais fait la queue au guichet. » Dieu lui dit alors, « Vas-y. » Dans l'obéissance, il ne dit rien de ce groupe d'amis qui était là avec sa femme, et il y alla. Après quelques instants dans la file d'attente, le diable se manifesta, la voix du diable se manifesta. Plus que trois personnes et tu vas te retrouver tout penaud à devoir partir. » Puis il renchérit. « Plus que deux, et c'en est fait de toi. Tu vas passer pour un idiot. » Mais décidé à obéir, Rhys Howell ne bougea pas. Soudain, la personne devant lui se retourna, le fixa et dit « Je n'ai plus le temps d'attendre. » Elle lui glissa la somme nécessaire pour son voyage dans la main et partit. En revenant joyeux du guichet, ses amis lui donnèrent des dons en abondance. Dieu les avait retenus pour l'éprouver. Il dit plus tard « Je n'aurais manqué l'épreuve de la file d'attente pour rien au monde. » Elle n'est pas belle cette histoire ? Bien, est-ce que nous connaissons quelque chose de cela ? Sans peut-être avoir vécu de telles situations. Mais si vous écoutez la voix de Dieu, c'est certain que vous allez en vivre des situations comme celle-ci. Peut-être pas aussi forte que celle-là, mais c'est évident que Dieu va vous parler. Et parfois, va vous demander de faire certaines choses plutôt farfelues. Mais si on n'obéit jamais, si cet homme, il n'y était pas allé dans cette file d'attente, il se serait dit « Ah, ben c'est moi ». Souvent, j'entends des personnes me dire « Ah, quand il y a, par exemple, je ne sais pas moi, il y a eu tout à coup un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, je m'étais dit, mais bon, je n'ai pas osé le dire, je pensais que c'était moi. » Alors, il n'y a pas de problème, et puis en même temps, il y a un problème. Et ces situations-là, elles doivent nous apprendre et nous faire revenir à Dieu pour dire « Éternel, aide-moi, que vous puissiez mettre ça dans votre prière personnelle. Aide-moi à t'écouter. Aide-moi à être sensible à ta voix. Être sensible à sa voix, c'est être sensible à son cœur. Et il est un cœur de père. Quel père, quelle mère serait heureux et heureuse sans communiquer avec ses enfants ? Dieu veut communiquer avec nous. Dieu veut nous parler. Et on a à faire l'apprentissage, bien-aimé, de la voix de Dieu. Et pour ça, je le répète, il faut se lancer. Alors, puissions-nous bien comprendre que si nous ne sommes pas clairs pour ce sujet, faisons rapidement de ce sujet un sujet de prière. Parce que c'est quelque chose de fondamental. Je répète, on ne peut pas obéir à quelqu'un si nous ne l'entendons pas. Et si vous avez des bouchons, comme les bouchons de ma fille ont été traités et qu'ils sont partis, eh bien, Dieu fera pareil, parce qu'il est un Dieu bienveillant qui veut communiquer avec nous. Il veut qu'on lui obéisse parce qu'il sait que c'est notre bien. Alors, il le fera. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous voyez, bien-aimés, dans la parole de Dieu, le mot que nous avons dans nos Bibles traduit par « obéissance », il dérive, que ce soit dans le Premier Testament en hébreu ou dans le Second en grec, il dérive toujours du mot « écouter ». Obéir dérive du mot « écouter ». En grec, nous avons ce mot « upakouo », par exemple dans l'Épître aux Romains que nous avons lu tout à l'heure, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. 1 Pierre 1,2, nous l'avons lu aussi, par la sanctification de l'esprit afin qu'il devienne obéissant, ou pakoué. Et dans l'hébreu, nous avons shama. On peut voir ça dans 1 Samuel 15, 22, ces versets bien connus. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Le mot traduit ici est « shama », entendre, écouter, obéir. D'abord entendre, écouter, obéir. En grec, prêter l'oreille, être docile et soumis. Prêter l'oreille, c'est pas beau ? Prêter l'oreille, être docile et soumis. Et ça, il faut que ce soit clair. Un, on doit entendre, prêter l'oreille. Dieu, on doit écouter réellement, alors être obéissant et soumis. Et là, j'aimerais vous partager un exemple dans la parole de Dieu qui je trouve absolument merveilleux. Exemple de David qui consulte Dieu avant d'aller à la guerre. On trouve cela dans 1 Chronique 14, verset 9. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu. Quand il voit ces Philistins arriver, je fais une très brève parenthèse, les 10 Palestiniens d'aujourd'hui sont des descendants de ces gens-là. Gaza, vous le trouvez dans la Bible. Et il y a, je dirais, une guerre qui a continué quand Dieu a demandé d'obéir ce qu'a fait Josué, mais que le peuple n'a pas fait jusqu'au bout, pour mettre l'anathème dans cette terre promise, pour que cette terre soit vraiment une terre où coule le lait et le miel, où les ennemis de Dieu ne pourraient pas régner, comme ils n'ont pas pleinement obéi, l'ennemi est resté, a demeuré, il est là encore aujourd'hui. Alors quand ces Philistins arrivèrent, ils se répandirent dans la vallée, David, qu'est-ce qu'il fait? Il consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte et je les livrerai entre tes mains. » Et là, on est au verset 10. Maintenant, je passe un peu plus loin au verset 13. Les Philistins y reviennent. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. Et l'Éternel les a livrés entre ses mains. Il a gagné la bataille. Mais ils reviennent. David consulta encore Dieu. Amen. Il aurait pu dire, il m'a dit monte, j'ai pas besoin de le consulter, il m'a dit monte, je monte. Et là c'est quelque chose de précieux, l'enseignement qu'on a là, c'est que c'est pas quand une fois, entre guillemets, ça a marché, quand une fois on a compris que c'est bon. On est tout le temps appelé à être dépendant de Dieu, on est appelé à être l'ombre de Dieu. Aussitôt qu'on cesse d'être l'ombre de Dieu, on peut plus être en communion avec lui et appartenir à son règne, être soumis à sa royauté. Alors vous voyez, David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Et écoutez ce verset 15, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Quel miel pour nos cœurs, n'est-ce pas? Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Vous voyez, bien-aimés, je crois que dans cette parole, il y a tout. Elle est précieuse. Puissiez-vous, puissions-nous tous la méditer. 1 Chronique 14, verset 9 jusqu'au verset 15. Puissions-nous être de ces David qui consultent à chaque instant l'Éternel. Voilà pourquoi on a besoin d'une vie réglée. Pour chaque matin, laisser l'Éternel éveiller notre oreille, déboucher notre oreille. Parce que si chaque matin, nous lui laissons la place pour se faire, et c'est là tout le but de la prière. Alors tout au long du jour, on ne prie pas pour prier, on prie pour être. On prie pour demeurer avec Dieu. Demeurez en moi et je demeure en vous. Non pas prier et puis ensuite aller dans votre journée. Priez pour que j'aille avec vous dans votre journée. Que je sois votre bon berger. Que vous puissiez me suivre. Que je puisse vous conduire. Et cette voix de Dieu, on est appelé à toujours l'écouter, à toujours la consulter, afin que nous puissions entendre les pas de l'Éternel. Et alors sortir quand il nous demande de sortir. Et alors nous aurons la victoire, comme David a eu la victoire. Deuxième point, bien-aimés, maintenant la parole de Dieu. C'est à la parole de Dieu, par-dessus tout, que nous devons obéir. Et avant d'en dire quelques mots, j'aimerais à nouveau vous raconter une histoire d'un évangéliste ayant travaillé en Chine dans la mission d'Hudson Taylor, Charles Studd. Un matin avant l'aube, Frédéric Meyer, c'était un homme qui est né en 1847 et qui est parti auprès de Dieu en 1929. Un prédicateur des plus influents de son époque, pasteur, évangéliste et auteur de nombreux ouvrages. Donc vous voyez, ce prédicateur le plus influent, pasteur, évangéliste, auteur de nombreux ouvrages, un jour, il se réveille et s'étonne de voir son compagnon à genoux est totalement absorbé par l'étude du Nouveau Testament à la lumière d'une bougie. Meyer lui demande ce qu'il est en train de faire et Stud lui répond « Je parcours le Nouveau Testament pour savoir ce que Dieu m'ordonne aujourd'hui afin que je puisse mettre mon obéissance à jour. » C'est pas beau ça. On a besoin de mettre notre obéissance à jour. Voilà pourquoi on a besoin d'une vie réglée. Mettre notre obéissance à jour afin que Dieu puisse nous guider par sa voie qui a pour source, qui a pour base, qui a, pourrait-on dire, pour base, pour fondement, les Saintes Écritures. On a besoin des Saintes Écritures. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de quoi ? De la parole de Christ, de la parole de Dieu. Et nous avons besoin que la parole de Dieu soit notre garant, qu'elle puisse être le cœur de tous les fondements, parce que c'est elle qui donne tous les fondements. Elle est la source de la révélation. C'est donc à elle que nous devons obéir par-dessus tout. La parole de Dieu et la voix de Dieu, elles font qu'un. Jésus est celui qui était la parole de Dieu. Il était le Verbe. Il était la parole. Jésus est vivant. Il est assis à la droite de Dieu. Il nous parle. Mais cette voix de Dieu et la parole de Dieu, ça ne fait qu'un. Ça ne fait qu'un. Et parce que nous restons encore des traits d'union, non pas du bas, mais du milieu, nous avons besoin de cette parole. Encore une fois, méditons ce psaume 119 et que cette parole, elle puisse être vraiment cette lampe à nos pas, cette lumière sur notre sentier. La parole, bien-aimée, elle est là comme critère et comme repère de l'obéissance. C'est elle qui fixe réellement ce qui est juste ou pas. Le psaume 40, verset 7, qui nous parle de Jésus, nous parle à nouveau d'une manière merveilleuse. « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, parce que tu m'as ouvert l'oreille, voici je viens, quoi ? Avec le rouleau du livre. » Tu m'as ouvert l'oreille, voici, je viens, mais je ne viens pas seul, je viens avec le rouleau du livre. Le rouleau du livre écrit pour moi. Jésus pouvait le dire, mais nous pouvons le recevoir aussi. Ce rouleau du livre, il est écrit pour nous. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Voyez, un, tu m'as ouvert les oreilles, voici je viens avec le rouleau du livre, et parce que je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, trois, je vais faire ta volonté, et quatre, ta Torah, ton instruction, elle va être au fond de mon cœur. Amen. La parole, bien-aimée, elle doit renouveler notre intelligence afin que cette parole même, les volontés de Dieu, puissent s'accomplir en nous. Ce renouvellement de l'intelligence, on a besoin de le comprendre. Si on a pu, je dirais, toucher un petit peu quelque chose, et je dis un petit peu parce que c'est bien le cas, de ce mystère de l'iniquité, de ce monde dans lequel on vit. Alors j'espère que l'on aura touché ce soir, un petit peu aussi, le besoin que nous avons d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence par la parole de Dieu. Une fois qu'on est fondé en Christ, on a besoin d'être bâti par la parole de Dieu. Et ça, c'est fondamental, bien-aimés. Et cette écoute quotidienne renouvelée qui a pour base la parole de Dieu, ne croyons pas l'avoir acquise. Je sais que c'est des choses que j'ai déjà partagées parmi nos frères et sœurs missionnaires qui sont là. Et on peut se dire, oui, être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, c'est la parole de Dieu qui nous façonne, c'est elle qui nous donne la pensée de Christ, c'est la parole qui devient ma pensée, c'est elle qui me bâtit, qui me donne le discernement. Oui, je sais. Mais moi, je ne sais pas, bien-aimé. Moi qui vous dis ça, chaque jour, chaque instant, je suis appelé à être en communion avec Dieu. La parole de Dieu, vous voyez, on peut voir très facilement, si nous sommes avec lui, si nous sommes consacrés à Dieu, c'est qu'on va la lire tous les jours. Si on ne lit pas la parole, une journée, c'est qu'on est en train de s'écarter. C'est évident. Le diable, il ne veut pas qu'on lise la parole de Dieu. Il sait qu'elle est une lampe à nos pas. Il sait qu'il y a les fondements du royaume qu'il est en train, comme nous en avons parlé tout à l'heure, de vouloir usurper, détruire, fermer la porte. Il sait que là, il y a une porte qui s'ouvre devant nous, que nul ne peut fermer, bien-aimé. Alors, si nous voulons être à l'écoute de la parole de Dieu, il faut la lire. Et il faut la lire de manière journalière. Et vous verrez alors, et cela participe pleinement au fait d'écouter la voix de Dieu. Peut-être, vous voyez, je vous le dis là spontanément, j'ai pris les choses à l'envers. Certainement, j'ai pris les choses à l'envers. J'aurais dû vous parler du point B à la place du point A et du point A à la place du point B. C'est une évidence. C'est d'abord la parole de Dieu. On vient de le lire. Je viens avec le rouleau du livre. Tu ouvres mes oreilles, bien sûr, pour que j'entende cette parole. Mais je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Alors je vais faire ta volonté et ta loi, elle est au fond de mon cœur. Et cette loi, cette instruction, c'est l'écoute de la voix de Dieu. Mais la parole, elle est première. N'avez-vous jamais fait l'expérience dans votre vie de tous les jours? En tout cas, moi, ça m'arrive souvent, et même très souvent, avec Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Avec mes enfants, avec ma femme. Et parfois, ça, c'est l'amour. Quand les deux ont ça, alors on va accepter avec joie parce que on ne va pas se battre parce qu'on est donné l'un à l'autre. Alors, parce qu'on aimerait que la personne qui nous est chère ou la personne qui nous ne serait pas chère aussi accepte ce présent. On sait la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On a fait l'expérience de ces choses. Ça aussi, c'est un verset que Dieu va nous rappeler dans notre vie quotidienne. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Eh bien, on va accepter le présent parce qu'on aimerait que notre épouse, par exemple, elle puisse l'accepter et parce qu'on va lui donner la joie de pouvoir donner. Comprenez ce que je veux dire? Quand on est ancré dans la parole de Dieu, tout au long du jour, dans toutes les situations, la parole de Dieu va se rappeler à nous. Et ça fait foncièrement partie de la voix de Dieu. Là encore, des gens qui disent « Dieu m'a dit, je ressens ceci, je ressens cela. » Attends, est-ce que tu lis la parole de Dieu tous les jours? Est-ce que chaque jour, tu te laisses, comme on l'a lu tout à l'heure, parcourir les Écritures pour savoir ce que Dieu t'ordonne, pour mettre ton obéissance à jour? Est-ce que chaque jour, nous mettons notre obéissance à jour par la parole de Dieu? Puissions-nous le faire? Puissions-nous désirer la parole de Dieu? Vous savez, parfois, on dit que lire la Bible en une année, c'est quelque chose... Ah, dis donc, tu lis la Bible en une année. Mais il faut dire la vérité. Lire la Bible en une année, c'est rien. Ici, si vous voulez, il y a des programmes bibliques en une année. Vous allez voir, vous cochez une case, vous lisez à peine une demi-heure. Alors bien sûr, si on médite, si Dieu nous guide, on est porté à plus. Mais c'est évident qu'en moins de 45 minutes par jour, vous lisez la parole de Dieu en une année. Alors, je ne veux pas le répéter, j'en ai parlé à je ne sais plus qui dernièrement. Mais il y a plusieurs jeunes de 11, 12 ans qui ont lu parfois la Bible deux fois en une année ici. Et non pas parce qu'on les forçait, parce qu'on ne va jamais forcer un enfant à lire la Bible. Ça, c'est quelque chose, je crois, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans le cœur. Nos enfants, quand ils doivent nous voir, ils doivent désirer. Il faut qu'ils puissent voir et désirer en nous, être portés à la sainteté, avoir une soif. Ce n'est pas à la baguette qu'on fait aimer les choses de Dieu. C'est quand nous devenons des témoignages de quelqu'un qui aime Dieu. Oh, combien de fois, le matin, mes enfants, oh pardon, je suis en train de parler de moi, mais me voient arriver dans le salon. Oh, mes enfants, mais la parole de Dieu, c'est un trésor. Allez, asseyez-vous et clac, à leur niveau. Voilà ce que Dieu m'a donné ce matin. Voilà la manne du matin. Et moi, je peux vous dire que le premier fils, là, il se pousse à lire et je suis certain que la première des choses qu'il aura envie, c'est de lire la parole de Dieu. Puissions-nous être de ceux, pour nos enfants, mais les uns envers les autres, qui nous donnent de désirer, d'avoir une sainte jalousie les uns envers les autres. Non pas d'avoir plein de connaissances, mais qu'on perçoive qu'elle est dans notre cœur, comme on l'a lu tout à l'heure. Ta Torah est dans mon cœur. Pour qu'elle soit dans mon cœur, il faut la lire. Et c'est pas étonnant si vous avez des combats à la lyre. C'est évident. C'est évident qu'il y en a un. Ces puissances des ténèbres que nous devrions assujettir, auxquelles nous sommes encore peut-être assujettis. Alors la première chose qu'elle veut pas qu'on fasse, c'est qu'on lise la parole de Dieu et qu'on prie. Voilà pourquoi on a besoin d'une vie de discipline, bien-aimé. Alors, soyons clairs que c'est quelque chose qui a besoin d'être sans cesse renouvelé. Celui qui se dit arriver, je pense qu'il n'a pas compris. Soyons toujours ces tout-petits, soyons toujours ces mendiants, bien-aimés, qui dépendent de Dieu, qui ont besoin de lui. Et vous verrez que tout au long du jour, dans chaque situation, la parole de Dieu viendra vous conduire. Josué 1:7, il lui dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage ». En agissant fidèlement, comment on agit fidèlement? Selon toute la Torah que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez, tu agis fidèlement comment? Selon toute la Torah. Si tu ne te détournes ni à gauche ni à droite de la Torah, tu réussiras dans tout ce que tu fais. Toute la Torah de Moïse, dans tout ce que tu fais. Que ce livre de la Torah ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que nous puissions avoir ce cœur à la méditer jour et nuit pour ainsi agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Notez une chose, bien-aimé. Jésus lui-même, dans sa vie, il était imprégné, il était la parole même de Dieu. Sa vie n'a été qu'un accomplissement de la parole de Dieu. Et un des exemples les plus touchants que je vous donnerai, c'est dans Jean 19, verset 28. « Après quoi, sachant que dès l'heure, tout était achevé, pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit, j'ai soif. » C'est pas beau ça? Lui qui était sur la croix, même sur la croix, l'Écriture, la voix de son Père dont il se sentait séparé, a été là pour lui dire, dis j'ai soif. Peut-être qu'il arrivait même plus à le dire, mais par obéissance, il a dit, j'ai soif, afin que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout. Oh, puissions-nous être dans cet esprit de Jésus et que nos vies manifestent l'accomplissement jusqu'au bout de la parole de Dieu. Et au verset 30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. On le voit même, baisser la tête, il rend l'esprit. C'est la pleine soumission à son Père. Et cette pleine soumission à son Père, elle est la gloire, bien-aimé. C'est de là que toute la puissance des ténèbres, toutes nos chairs respectives peuvent être crucifiées et recevoir la puissance de la résurrection. Alors, lisons cette parole, aimons cette parole et mettons-la en pratique. Puissions-nous être de ceux qui viennent avec ce rouleau du livre qui est écrit pour nous, pour faire ses volontés, entendre sa voix, que sa voix soit dans notre cœur, que sa loi, son instruction, dans le mot Torah, il y a la visitation, que Dieu nous visite sans cesse, que sa présence soit dans nos cœurs, que nous puissions obéir sur la base de la parole de Dieu qui devient vivante, qui devient véritable conducteur chaque jour de notre vie. Et que sur la base de cette parole, ce point A que j'ai inversé, n'est-ce pas, eh bien nous puissions apprendre à entendre la voix de Dieu, à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Et si nous mettons ces choses en pratique, nous trouverons la vie. Nous trouverons la vie et nous pourrons peut-être pas composer un si beau psaume que ce qu'a fait David, mais c'est tout ce qu'il y aura dans nos cœurs. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, merci pour cette journée que tu nous as donnée. Puisse toutes ces choses que nous avons entendues descendre au plus profond de notre cœur. Et si nous parlerons demain de cette mise en pratique, comme me le disait un cher frère au sortir de la dernière session, maintenant, c'est la mise en pratique. Ô Éternel, si nous n'aborderons pas ce point en ce soir, que toutes ces choses qui ont pu être partagées jusque-là et tout ce qui pourra être partagé demain nous amène à être mis au large pour accomplir toutes tes volontés, pour mettre ta parole en pratique, pour ne pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements, mais pour être de ceux, et c'est ma prière pour nous ce soir, qui restent devant ton miroir et qui trouvent leur bonheur en pratiquant tout ce que tu as bien voulu nous donner en cette journée. Que chacun puisse recevoir pleinement tout ce qui était fait pour lui et que non pas comme des individus, mais comme des enfants de Dieu réconciliés avec le Père, devenant, étant devenus obéissants, nous soyons tous conduits par une même parole, par un même esprit, pour être unis dans le Messie, notre Sauveur, Jésus, que nous adorons encore ce soir. Merci Père éternel pour Jésus, qui est notre chemin, notre vérité et notre vie. Amen.